Édouard Chouret, Les grands initiés, livre 7, Platon. Chapitre 3. Les mystères d'Éleusis. Les mystères d'Éleusis furent, dans l'Antiquité grecque et latine, l'objet d'une vénération spéciale. Les auteurs mêmes qui tournèrent en ridicule les fables mythologiques n'osèrent toucher au culte des grandes déesses. Leur règne, moins bruyant que celui des Olympiens, se montra plus sûr et plus efficace. En un temps immémorial, une colonie grecque venue d'Égypte avait apporté dans la tranquille baie d'Éleusis le culte de la grande Isis sous le nom de Déméter ou de la mère universelle. Depuis ce temps, Éleusis était resté un centre d'initiation. Déméter et sa fille Perséphone présidaient aux petits et aux grands mystères, de là leur prestige. Si le peuple révérait en Cérès la terre-mère et la déesse de l'agriculture, les initiés y voyaient la lumière céleste, mère des âmes, et l'intelligence divine, mère des dieux cosmogoniques. Son culte était desservi par des prêtres appartenant à la plus ancienne famille sacerdotale de l'Attique. Il se disait fils de la lune, c'est-à-dire né pour être le médiateur entre la terre et le ciel, issu de la sphère où se trouve le pont jeté entre les deux régions, par lequel les âmes descendent et remontent. Dès l'origine, leur fonction avait été de chanter, dans cet abîme de misère, les délices du céleste séjour et d'enseigner les moyens d'en retrouver la route. De là leur nom d'eumolpides, ou chantres des mélodies bienfaisantes, douces régénératrices des hommes. Les prêtres d'Éleusis enseignèrent toujours la grande doctrine ésotérique qui leur venait d'Égypte. Mais dans le cours des âges, ils la revêtirent de tout le charme d'une mythologie plastique et ravissante. Par un art subtil et profond, ces enchanteurs surent se servir des passions terrestres pour exprimer des idées célestes. Ils mirent à profit l'attrait des sens, la pompe des cérémonies, les séductions de l'art, pour induire l'âme à une vie meilleure et l'esprit à l'intelligence des vérités divines. Nulle part, les mystères n'apparaissent sous une forme aussi humaine, aussi vivante et colorée. Le mythe de Cérès et de sa fille Proserpine forme le cœur du culte d'Éleusis. Comme une théorie brillante, toute l'initiation éleusinienne tourne et se développe autour de ce cercle lumineux. Or, dans son sens intime, ce mythe est la représentation symbolique de l'histoire de l'âme, de sa descente dans la matière, de ses souffrances dans les ténèbres de l'oubli, puis de sa réascension et de son retour à la vie divine. Autre terme, c'est le drame de la chute et de la rédemption sous sa forme hellénique. On peut donc affirmer d'autre part que pour l'Athénien cultivé et initié du temps de Platon, les mystères d'Éleusis offraient le complément explicatif, la contrepartie lumineuse des représentations tragiques d'Athènes. Là, dans le théâtre de Bacchus, devant le peuple houleux et grondant, les incantations terribles de Melpomène évoquaient l'homme terrestre, aveuglé par ses passions, poursuivi par la némésis de ses crimes, accablé par un destin implacable et souvent incompréhensible. Là retentissaient les luttes prométhéennes, les imprécations des Érinnées. Là rugissaient les désespoirs d'Œdipe et les fureurs d'Oreste. Là régnait la sombre terreur et la pitié lamentable. À Éleusis, dans l'enceinte de Cérès, tout s'éclaircissait. Le cercle des choses s'étendait pour les initiés devenus voyants. L'histoire de Psyché et de Perséphone était pour chaque âme une révélation surprenante. La vie s'expliquait comme une expiation, comme une épreuve. En deçà et au-delà de son présent terrestre, l'homme découvrait les zones étoilées d'un passé, d'un avenir divin. Après les affres de la mort, les espérances, les libérations, les joies élyséennes, et à travers les portiques du temple grand ouvert, les chants des bienheureux, la lumière submergente d'un merveilleux au-delà. Voici ce qu'étaient les mystères en face de la tragédie. Le drame divin de l'âme complétant, expliquant le drame terrestre de l'homme. Les petits mystères se célébraient au mois de février à Agrae, bourg voisin d'Éleusis. Les habitants qui avaient subi un examen préalable et fourni des preuves de leur naissance, de leur éducation et de leur honorabilité étaient reçus à l'entrée de l'enceinte fermée par le prêtre d'Éleusis, nommé Hieros Eryx ou Héros Sacré, assimilé à Hermès, coiffé comme lui du pétase et portant le caducée. C'était le guide, le médiateur, l'interprète des mystères. Il conduisait les arrivants vers un petit temple à colonne ionienne, dédié à Corée, la grande vierge Perséphone. Le gracieux sanctuaire de la déesse se cachait au fond d'un vallon tranquille, au milieu d'un bois sacré, entre les groupes d'ifs et de peupliers blancs. Alors, les prêtresses de Proserpine, les hiérophantides, sortaient du temple en pétos immaculés, bras nus, couronnés de narcisses. Elles se rangeaient en ligne au haut de l'escalier et entonnaient une mélopée grave sur le mode dorien. Elles disaient, en scandant leurs paroles avec de grands gestes, « Ô aspirant des mystères, vous voici au seuil de Proserpine. Tout ce que vous allez voir va vous surprendre. Vous apprendrez que votre vie présente n'est qu'un tissu de rêves mensongers et confus. Le sommeil qui vous entoure d'une zone de ténèbres emporte vos rêves et vos jours dans son flux comme des débris flottants qui s'évanouissent à la vue. Mais par-delà, s'étend une zone de lumière éternelle. Que Perséphone vous soit propice et vous enseigne elle-même à franchir le fleuve des ténèbres et à pénétrer jusqu'à Déméter céleste. » Puis, la prophantide ou prophétesse, qui conduisait le cœur, descendait trois marches de l'escalier et proférait cette malédiction d'une voix solennelle, d'un regard effrayant. Mais malheur à ceux qui seraient venus pour profaner les mystères, car la déesse poursuivra ces cœurs pervers pendant toute leur vie, et dans le royaume des ombres, elle ne lâchera pas sa proie. Plusieurs jours se passaient ensuite en ablutions, en jeûnes, en prières et en instructions. Le soir du dernier jour, les néophytes se réunissaient dans la partie la plus secrète du bois sacré pour y assister à l'enlèvement de Perséphone. La scène se jouait en plein air par les prêtresses du temple. L'usage remontait fort loin et le fond de cette représentation, l'idée dominante resta toujours la même, quoique la forme varia beaucoup dans le court des âges. Du temps de Platon, grâce au développement récent de la tragédie, l'ancienne sévérité hiératique avait fait place à un goût plus humain, plus raffiné et à une tendance passionnelle. Guidé par Hiéropanthe, Les poètes anonymes d'Éleusis avaient fait de cette scène un petit drame qui se déroulait à peu près ainsi. Les néophytes arrivent deux à deux dans une clairière. Au fond, on voit des rochers avec une grotte entourée d'un bois de myrte et de quelques peupliers. Sur le devant, une prairie où il y a des nymphes couchées autour d'une source. Au fond de la grotte, on aperçoit Perséphone assise sur un siège. Nue jusqu'à la ceinture comme une psyché, son buste svelte émerge chastement d'une draperie enroulée comme une vapeur d'azur à ses flancs. Elle semble heureuse, inconsciente de sa beauté, et brode un long voile de fine tricolore. Déméter, sa mère, est debout près d'elle, coiffée du calathos, son sceptre à la main. Hermès, le héros des mystères, aux assistants. Déméter nous fait deux présents excellents, les fruits afin que nous ne vivions pas comme des bêtes, et l'initiation qui donne un espoir plus doux à tous ceux qui y participent, et pour la fin de cette vie et pour toute l'éternité. Prenez garde aux paroles que vous allez entendre, aux choses que vous allez voir. Déméter d'une voix grave. Fille aimée des dieux, demeure dans cette grotte jusqu'à mon retour et brode mon voile. Le ciel est ta patrie, l'univers est à toi. Tu vois les dieux, ils viennent à ton appel. Mais n'écoute point la voix d'Eros, le rusé, au suave regard, au perfide conseil. Garde-toi de sortir de la grotte et ne cueille jamais les fleurs séduisantes de la terre. Leur parfum troublant et funeste te ferait perdre la lumière du ciel et jusqu'au souvenir. Tisse mon voile et vis heureuse jusqu'à mon retour avec les nymphes tes compagnes. Alors, sur mon char de feu attelé de serpents, je te ramènerai dans les splendeurs de l'éther, au-dessus de la voie lactée. Perséphone. Oui, mère auguste et redoutable, par cette lumière qui t'environne et qui m'est chère, je le promets, et que les dieux me châtient si je ne tiens pas mon serment. Déméter sort. Le cœur des nymphes. Ô Perséphone, ô vierge, ô chaste fiancée du ciel qui brode la figure des dieux sur ton voile, puisses-tu ne jamais connaître les vaines illusions et les maux sans nombre de la terre. L'éternelle vérité te sourit. Ton époux céleste, Dionysos, t'attend dans l'Empyrée. Parfois, il t'apparaît sous la forme d'un soleil lointain. Ses rayons te caressent, il respire ton souffle et tu vois sa lumière. D'avance, vous vous possédez. Ô Vierge, qui donc est plus heureuse que toi? Perséphone. Sur ce voile d'azur aux plis interminables, je brode, de mon aiguille d'ivoire, les figures innombrables des êtres et de toutes les choses. J'ai fini l'histoire des dieux. J'ai brodé le chaos effrayant, aux 100 têtes, aux 1000 bras. De là doivent sortir les êtres mortels. Qui donc les a fait naître? Le père des dieux me l'a dit, cet Eros. Mais je ne l'ai jamais vu, j'ignore sa forme. Qui donc me peindra son visage? Les nymphes. Ne songe pas à cela. Pourquoi cette vaine question? Perséphone se lève et rejette le voile. Eros, le plus ancien et pourtant le plus jeune des dieux, source intarissable des joies et des pleurs. Car c'est ainsi qu'on m'a parlé de toi. Dieu terrible, seul inconnu, seul invisible des immortels, et seul désirable, mystérieux Eros. Quel trouble, quel vertige me saisit à ton nom. Le cœur. Ne cherche pas à en savoir davantage. Les questions dangereuses ont perdu des hommes et même des dieux. Perséphone fixe dans le vide ses yeux pleins d'épouvante. Est-ce un souvenir? Est-ce un pressentiment affreux? Le chaos, les hommes, l'abîme des générations, le cri des enfantements, les clameurs furieuses de la haine et de la guerre. Le gouffre de la mort. J'entends, je vois tout cela. Et cet abîme m'attire. Il me reprend. Il faut que j'y descende. Eros m'y plonge avec sa torche incendiaire. Ah, je vais mourir. Loin de moi ce rêve horrible. Elle se couvre le visage de ses mains et sanglote. Le cœur. Ô Vierge divine, ce n'est encore qu'un rêve, mais il prendrait corps, il deviendrait l'inéluctable réalité, et ton ciel disparaîtrait comme un vain songe si tu cédais à ton désir coupable. Obéis à cet avertissement salutaire, reprends ton aiguille et tisse ton voile. Oublie l'astucieux, l'impudent, le criminel Eros. Perséphone ôte les mains de son visage qui a changé d'expression. Elle sourit à travers ses larmes. Folle que vous êtes, insensée que j'étais. Je m'en souviens maintenant. Je l'ai entendu dire dans les mystères olympiens. Eros est le plus beau des dieux. Sur un char ailé, il préside aux évolutions des immortels, au mélange des essences premières. C'est lui qui conduit les hommes hardis, les héros, du fond du chaos au sommet de l'éther. Il sait tout. Comme le feu principe, il traverse tous les mondes. Il tient les clés de la terre et du ciel. Je veux le voir. Le cœur. Malheureuse, arrête ! Eros sort du bois, sous la forme d'un adolescent ailé. Tu m'appelles, Perséphone ? Me voici. Perséphone se rassied. On te dit rusée, et ton visage est l'innocence même. On te dit tout puissant, et tu parais un frêle enfant. On te dit traître, et plus je regarde tes yeux, plus mon cœur s'épanouit. Plus je prends confiance en toi, bel enfant enjoué. On te dit savant et habile. Peux-tu m'aider à brûler ce voile ? Eros. Volontiers. Me voici près de toi, à tes pieds. Quel voile merveilleux ! Il semble trempé dans l'azur de tes yeux. Quelles figures admirables ta main y a brodées. Moins belles, cependant, que la divine brodeuse, qui ne s'est jamais vue elle-même dans un miroir. Il sourit malicieusement. Perséphone. Me voir moi-même ? Serait-ce possible ? Elle rougit. Mais reconnais-tu ces figures ? Eros. Si je les connais, l'histoire des dieux. Mais pourquoi t'arrêter au chaos ? C'est là que la lutte commence. Ne tisseras-tu pas la guerre des titans, la naissance des hommes et leurs amours ? Perséphone. Ma science s'arrête ici, et ma mémoire me fait défaut. Ne m'aideras-tu pas à broder la suite ? Eros lui jette un regard enflammé. Oui, Perséphone, mais à une condition. C'est que d'abord tu viennes cueillir avec moi une fleur sur la prairie, la plus belle de toutes. Perséphone, sérieuse, ma mère auguste et sage me l'a défendue. N'écoute pas la voix d'Eros, m'a-t-elle dit. Ne cueille pas les fleurs de la prairie, sinon tu seras la plus misérable des immortels. Eros, je comprends. Ta mère ne veut pas que tu connaisses les secrets de la terre et des enfers. Si tu respirais les fleurs de la prairie, ils te seraient révélés. Perséphone, les connais-tu ? Eros, tous, et tu le vois, je n'en suis que plus jeune et plus agile. Ô fille des dieux, l'abîme a des terreurs et des frissons que le ciel ignore. Mais il ne comprend pas le ciel, celui qui n'a pas traversé la terre et les enfers. Perséphone, peux-tu me les faire comprendre?
Eros.
Oui, regarde. Il touche la terre de la pointe de son arc. Un grand narcisse en sort.
Perséphone.
Oh, la fleur admirable! Elle fait trembler et surgir dans mon cœur un divin souvenir. Quelquefois, endormie sur une cime de mon astre aimé, que dort un éternel couchant, à mon réveil, j'ai vu, sur la pourpre de l'horizon, flotter une étoile d'argent dans le sein nacré du ciel vert pâle. Il me semblait alors qu'elle était le flambeau de l'époux immortel, promesse des dieux, du divin Dionysos. Mais l'étoile descendait, descendait, et le flambeau mourait au loin. Cette fleur merveilleuse ressemble à cette étoile.
Eros.
Moi qui transforme et relie toutes choses, moi qui fais du petit l'image du grand, de la profondeur le miroir du ciel, moi qui mélange le ciel et l'enfer sur la terre, qui élabore toutes les formes dans le profond océan, j'ai fait renaître ton étoile de l'abîme sous la forme d'une fleur, afin que tu puisses la toucher, l'accueillir et la respirer.
Le cœur.
Prends garde que cette magie ne soit un piège.
Perséphone.
Comment nommes-tu cette fleur?
Eros.
Les hommes l'appellent Narcisse. Moi, je l'appelle Désir. Vois comme elle te regarde, comme elle se tourne vers toi. Ses blancs pétales frémissent comme vivants. De son cœur d'or s'échappe un parfum qui remplit toute l'atmosphère de volupté. Dès que tu porteras cette fleur magique à ton visage, tu verras dans un tableau immense et merveilleux les monstres de l'abîme, la terre profonde et le cœur des hommes. Rien ne te sera caché.
Perséphone.
Ô fleur merveilleuse, au parfum enivrant, mon cœur palpite, mes doigts brûlent en te saisissant. Je veux te respirer, te presser sur mes lèvres, te poser sur mon cœur, dussé-je en mourir. La terre s'entr'ouvre à côté d'elle. De la fente béante et noire, on voit surgir lentement jusqu'à mi-hauteur Pluton sur un char attelé de deux chevaux noirs. Il saisit Perséphone au moment où elle cueille la fleur et l'attire violemment à lui. Celle-ci se tord inutilement dans ses bras et pousse un grand cri. Aussitôt, le char s'enfonce et disparaît. Son roulement se perd au loin comme un tonnerre souterrain. Les nymphes s'éparpillent en gémissant dans le bois. Eros s'enfuit avec un éclat de rire. La voix de Perséphone sous terre. Ma mère, au secours, ma mère!
Hermès.
Ô aspirant des mystères, dont la vie est encore obscurcie par les fumées de la vie mauvaise, ceci est votre histoire. Gardez et méditez ce mot d'Empédocle. La génération est une destruction terrible qui fait passer les vivants dans les morts. Jadis, vous avez vécu de la vraie vie. Puis, attiré par un charme, vous êtes tombé dans l'abîme terrestre, subjugué par le corps. Votre présent n'est qu'un songe fatal. Le passé, l'avenir, seul existent vraiment. Apprenez à vous souvenir, apprenez à prévoir. Pendant cette scène, la nuit était tombée. Les torches funèbres s'allumaient entre les noirs cyprès, aux abords du petit temple, et les spectateurs s'éloignaient en silence, poursuivi par les chants éplorés des hiérophantides, appelant « Perséphone, Perséphone !» Les petits mystères étaient terminés. Les néophytes étaient devenus mystes, c'est-à-dire voilés. Ils allaient retourner à leurs occupations habituelles, mais le grand voile des mystères s'était étendu sur leurs yeux. Entre eux et le monde extérieur, un nuage s'était interposé. En même temps, un œil intérieur s'était ouvert dans leur esprit, par lequel ils apercevaient vaguement un autre monde plein de formes attirantes qui se mouvaient dans des gouffres tour à tour splendides et ténébreux. Les grands mystères qui faisaient suite aux petits mystères et qui s'appelaient les orgies sacrées ne se célébraient que tous les 5 ans, au mois de septembre, à Éleusis. Ces fêtes toutes symboliques duraient 9 jours. Le 8e, on distribuait aux mystes les insignes de l'initiation, le tirse et une corbeille appelée ciste, entourée de branches de lierre. Celles-ci renfermaient des objets mystérieux dont l'intelligence devait donner le secret de la vie. Mais la corbeille était soigneusement scellée. Il n'était permis de l'ouvrir qu'à la fin de l'initiation et devant l'hiérophante. Puis on se livrait à une joie exultante, on agitait des flambeaux, on se les passait l'un à l'autre, on poussait des cris d'allégresse. Ce jour-là, un cortège portait d'Athènes à Éleusis la statue de Dionysos, couronnée de myrte, qu'on nommait Iacos. Sa venue à Éleusis annonçait la grande renaissance, car il représentait l'esprit divin qui pénètre toutes choses, le régénérateur des âmes, le médiateur entre la terre et le ciel. Cette fois-ci, on entrait dans le temple par la porte mystique pour y passer la nuit sainte ou nuit de l'initiation. On pénétrait d'abord sous un vaste portique compris dans l'enceinte extérieure. Et là, le héros, avec des menaces terribles et le cri Escatobubilol, hors d'ici les profanes, écartait les intrus qui parvenaient quelquefois à se glisser dans l'enceinte avec les mystes. À ceux-ci, il faisait jurer sous peine de mort de ne rien révéler de ce qu'il verrait. Il ajoutait « Vous voici au seuil souterrain de Perséphone. » Pour comprendre la vie future et votre condition présente, il faut avoir traversé l'empire de la mort, c'est l'épreuve des initiés. Il faut savoir braver les ténèbres pour jouir de la lumière. Ensuite, on revêtait la peau de faon, image de la lacération et du déchirement de l'âme plongée dans la vie corporelle. Puis, on éteignait les flambeaux et les lampes, et on entrait dans le labyrinthe souterrain. Les mystes tâtonnaient d'abord dans les ténèbres. Bientôt on entendait des bruits, des gémissements et des voix redoutables. Des éclairs accompagnés de tonnerres sillonnaient les ténèbres. À leur lueur, on apercevait des visions effrayantes. Tantôt un monstre, chimère ou dragon, tantôt un homme lacéré sous les pieds d'un sphinx, tantôt une larve humaine. Ces apparitions étaient si soudaines qu'on n'avait pas le temps de distinguer l'artifice qui les produisait et l'obscurité complète qui leur succédait en redoublait l'horreur. Plutarque rapproche la terreur que donnaient ces visions de l'état d'un homme à son lit de mort. La scène la plus étrange et qui touchait à la magie véritable se passait dans une crypte où un prêtre phrygien, vêtu d'une robe asiatique calamistrée, à raies verticales rouges et noires, était debout devant un brasier de cuivre qui éclairait vaguement la salle de sa lueur intermittente. D'un geste qui ne souffrait pas de réplique, il forçait les arrivants à s'asseoir à l'entrée et jetait dans le brasier de grosses poignées de parfums narcotiques. La salle s'emplissait aussitôt d'épais tourbillons de fumée et bientôt on y distinguait un pêle-mêle de formes changeantes, animales et humaines. Quelquefois, c'était de longs serpents qui s'étiraient en sirènes et s'enchevêtraient dans un enroulement interminable. Quelquefois, des bustes de nymphes voluptueusement cambrés, aux bras étendus, se changeaient en chauves-souris. Des têtes charmantes d'adolescents en mufles de chien. Et tous ces monstres, tour à tour jolis et hideux, fluides, aériens, décevants, irréels, aussi vite évanouis qu'apparus, tournoyaient, chatoyaient, donnaient le vertige, enveloppaient les mystes fascinés comme pour leur barrer la route. Quelquefois, le prêtre de Cybèle étendait sa courte baguette au milieu des vapeurs et les flux de sa volonté semblaient imprimer à la ronde multiforme un mouvement tourbillonnant et une vitalité inquiétante. « Passez !» disait le phrygien. Les mystes se levaient et entraient dans le cercle. Alors, la plupart se sentaient frôlés étrangement. D'autres, rapidement touchés par des mains invisibles ou violemment jetés par terre. Quelques-uns reculaient d'effroi et s'en retournaient par où ils étaient venus. Les plus courageux seuls passaient en s'y prenant à plusieurs fois, car une ferme résolution coupait court au sortilège. Alors, on atteignait une grande salle circulaire, éclairée d'un jour funèbre par de rares lampadaires. Au centre, une colonne unique, un arbre en bronze, dont le feuillage métallique s'étend sur tout le plafond. Dans ce feuillage s'incrustent des chimères, des gorgones, des harpies, des hiboux, des sphinges et des striges, images parlantes de tous les maux terrestres, de tous les démons qui s'acharnent sur l'homme. Ces monstres reproduisent en métaux reluisants s'enroulent au branchage et, d'en haut, semblent guetter leur proie. Sous l'arbre au siège, sur un trône magnifique, Pluton a idonné au manteau de pourpre. Sous lui, la Nébride. Sa main tient le trident, son front est soucieux. Aux côtés du roi des enfers qui ne sourit jamais, son épouse, la grande, la svelte Perséphone. Les mystes la reconnaissent sous les traits de l'hiérophantide qui avait déjà représenté la déesse dans les petits mystères. Elle est toujours belle, plus belle peut-être dans sa mélancolie, mais combien changée sous sa robe de deuil aux larmes d'argent et sous le diadème d'or. Ce n'est plus la Vierge de la grotte. Maintenant, elle sait la vie d'en bas et elle souffre. Elle règne sur des puissances inférieures. Elle est souveraine parmi les morts, mais étrangère dans son empire. Un pâle sourire éclaire son visage assombri par l'ombre de l'enfer. Ah, dans ce sourire, il y a la science du bien et du mal, le charme inexprimable de la douleur vécue et muette. La souffrance enseigne la pitié. Elle accueille avec un regard de compassion les mystes, qui s'agenouille et dépose à ses pieds des couronnes de narcisses. Alors, reluit dans ses yeux une flamme mourante, espérance perdue, lointain ressouvenir du ciel. Tout à coup, au bout d'une galerie montante, brillent des torches, et, comme un coup de trompette, une voix clame. « Arrivez, Myste, Iacos est revenu. Déméter attend sa fille. » Évoé. Les échos sonores du souterrain répètent ce cri. Perséphone se dresse sur son trône, comme réveillée en sursaut d'un long sommeil et traversée d'une pensée fulgurante. La lumière, ma mère, Iacos. Elle veut s'élancer, mais Aïdoné la retient du geste par le pan de sa robe, et elle retombe sur son trône comme morte. Alors, les lampadaires s'éteignent subitement et une voix s'écrie « Mourir, c'est renaître ». Mais les mystes se pressent par la galerie des héros et des demi-dieux vers l'ouverture du souterrain où les attendent Hermès et le porte-flambeau. On leur ôte la peau de faon, on les asperge d'eau lustrale, on les revêt de lin frais et on les amène dans le temple splendidement illuminé où les reçoit l'hiérophante, le grand prêtre d'Éleusis, vieillard majestueux, vêtu de pourpre. Et maintenant, laissons parler Porphyre. Voici comment il raconte l'initiation suprême d'Éleusis. Couronnés de myrte, nous entrons avec les autres initiés dans le vestibule du temple, aveugles encore. Mais l'hiérophante qui est à l'intérieur va bientôt nous ouvrir les yeux. Mais d'abord, car il ne faut rien faire avec précipitation, d'abord, lavons-nous dans l'eau sacrée. Car c'est avec des mains pures et un cœur pur que nous sommes priés d'entrer dans l'enceinte sacrée. Conduits devant l'hiérophante, il nous lit dans un livre de pierre des choses que nous ne devons pas divulguer sous peine de mort. Disons seulement qu'elle s'accorde avec le lieu et la circonstance. Vous en ririez peut-être si vous les entendiez hors du temple. Mais ici, vous n'en avez nulle envie en écoutant les paroles du vieillard, car il est toujours vieux, et en regardant les symboles révélés. Et vous êtes très loin de rire quand Déméter confirme par sa langue particulière et ses signaux par de vives scintillations de lumière, des nuages empilés sur des nuages, tout ce que nous avons vu et entendu de son prêtre sacré. Alors, finalement, la lumière d'une sereine merveille remplit le temple. Nous voyons les purs chandélisés. Nous entendons le cœur des bienheureux. Alors, ce n'est pas seulement par une apparence extérieure ou par une interprétation philosophique, mais en fait et en réalité, que l'hiéropante devient le créateur et le révélateur de toutes choses. Le soleil n'est que son porte-flambeau, la lune son officiant près de l'autel, et Hermès son héros mystique. Mais le dernier mot a été prononcé, conx hom pax. Le rite est consommé et nous sommes voyants pour toujours. Que disait donc le grand hiérophante? Quelles étaient ces paroles sacrées, cette révélation suprême? Les initiés apprenaient que la divine Perséphone, qu'ils avaient vue au milieu des terreurs et des supplices des enfers, était l'image d'une âme humaine, enchaînée à la matière dans cette vie, ou livrée dans l'autre dans des chimères et à des tourments plus grands encore, si elle a vécu esclave de ses passions. Sa vie terrestre est une expiation ou une épreuve d'existence précédente. Mais l'âme peut se purifier par la discipline. Elle peut se souvenir et pressentir par l'effort combiné de l'intuition, de la raison et de la volonté et participer d'avance aux vastes vérités dont elle doit prendre possession pleine et entière dans l'immense au-delà. Alors seulement, Perséphone redeviendra la pure, la lumineuse, la vierge ineffable, dispensatrice de l'amour et de la joie. Quant à sa mère Cérès, elle était dans les mystères le symbole de l'intelligence divine et du principe intellectuel de l'homme que l'âme doit rejoindre pour atteindre sa perfection. S'il faut en croire Platon, Jean-Luc, Proclus, et tous les philosophes alexandrins, l'élite des initiés avait dans l'intérieur du temple des visions d'un caractère extatique et merveilleux. J'ai cité le témoignage de Porphyre. Voici celui de Proclus. Dans toutes les initiations et mystères, les dieux, ce mot signifie ici tous les ordres d'esprit, montrent beaucoup de formes d'eux-mêmes et apparaissent sous une grande variété de figures. Quelquefois, c'est une lumière sans forme. Quelquefois, cette lumière revêt la forme humaine. Quelquefois, une forme différente. Voici le passage d'Apulée. Je m'approchais des confins de la mort, et, ayant atteint le seuil de Proserpine, j'en revins, ayant été porté à travers tous les éléments, esprits élémentaux de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Dans les profondeurs de minuit, je vis le soleil reluisant d'une lumière splendide, en même temps que les dieux infernaux et les dieux supérieurs. Et, m'approchant de ces divinités, je leur payais le tribut d'une pieuse adoration. Si vagues que soient ces témoignages, ils semblent se rapporter à des phénomènes occultes. Selon la doctrine des mystères, les visions extatiques du temple se seraient produites à travers le plus pur des éléments, la lumière spirituelle assimilée à l'Isis céleste. Les oracles de Zoroastre l'appellent la nature qui parle par elle-même, c'est-à-dire un élément par lequel le mage donne une expression visible et instantanée à la pensée et qui sert également de corps et de vêtements aux âmes, qui sont les plus belles pensées de Dieu. C'est pourquoi Hiéropante, s'il avait le pouvoir de produire ce phénomène, de mettre les initiés en rapport avec les âmes des héros et des dieux, anges et archanges, était assimilé à ce moment au Créateur, au Démiurge, le porte-flambeau au Soleil, c'est-à-dire à la lumière hyperphysique, et Hermès à la parole divine qui est son interprète. Quoi qu'il en soit de ces visions, il n'y a qu'une voix dans l'Antiquité sur l'exaltation sereine que produisaient les dernières révélations d'Éleusis. Alors, un bonheur inconnu, une paix surhumaine, descendait dans le cœur des initiés. La vie semblait vaincue, l'âme délivrée, le cycle redoutable des existences accompli. Tous se retrouvaient avec une joie limpide, une certitude ineffable dans le pur éther de l'âme universelle. Nous venons de revivre le drame d'Éleusis avec son sens intime et caché. J'ai indiqué le fil conducteur qui traverse ce labyrinthe. J'ai montré la grande unité qui domine sa richesse et sa complexité. Par une harmonie savante et souveraine, un lien étroit unissait les cérémonies variées au drame divin qui formait le centre idéal, le foyer lumineux de ces fêtes religieuses. Ainsi, les initiés s'identifiaient peu à peu à l'action. De simples spectateurs, ils devenaient acteurs et reconnaissaient à la fin que le drame de Perséphone se passait en eux-mêmes. Et quelle surprise, quelle joie dans cette découverte! S'ils souffraient, s'ils luttaient avec elle dans la vie présente, ils avaient, comme elle, l'espoir de retrouver la félicité divine, la lumière de la grande intelligence. Les paroles du Hiérophante, les scènes et les révélations du temps leur en donnaient l'avant-goût. Il va sans dire que chacun comprenait ces choses selon son degré de culture et sa capacité intellectuelle. Car, comme le dit Platon, et cela est vrai pour tous les temps, il y a beaucoup de gens qui portent le thyrse et la baguette et peu d'inspirés. Après l'époque d'Alexandre, les Éleusinies furent atteintes dans une certaine mesure par la décadence païenne. Mais leur fond sublime subsista et les sauva de la déchéance qui frappa les autres temples. Par la profondeur de leur doctrine sacrée, par la splendeur de leur mise en scène, les mystères se maintinrent pendant 3 siècles en face du christianisme grandissant. Ils ralliaient alors cette élite qui, sans nier que Jésus fut une manifestation d'ordre héroïque et divin, ne voulait pas oublier, comme le faisait déjà l'Église d'alors, la vieille science et la doctrine sacrée. Il fallut un édit de Théodose interdisant les cérémonies du temple d'Éleusis pour mettre fin à ce culte auguste où la magie de l'art grec s'était plu à incorporer les plus hautes doctrines d'Orphée, de Pythagore et de Platon. Aujourd'hui, l'asile de l'antique Déméter a disparu sans trace dans la baie silencieuse d'Éleusis, et le papillon, l'insecte de Psyché qui traverse le golfe d'Azur au jour de printemps, rappelle seul qu'ici jadis, la grande exilée, l'âme humaine, évoqua les dieux et reconnut son éternelle patrie.